Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette émission est entièrement consacrée à la musique. La musique en tant que porteuse d'une puissance spirituelle singulière, d'un sacré en dehors des codes et des dogmes et qui est un support de contemplation. C'est le fil conducteur du livre de Gérard Kurdjian, Méditation musicale, publié chez Dervy. Et accompagnera Gérard Kurdjian dans cette réflexion la journaliste et musicienne Laure d'Autriche qui publie chez Talendier ces musiciens qui ont fait l'histoire ou comment la musique raconte la grande histoire. À vous de bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et merci pour votre présence dans ce studio. Je me tourne vers vous, Gérard Kurdjian. Vous êtes musicien, conseiller artistique de Festival de musique. Vous avez été le directeur artistique pendant de longues années du Festival de Fès, des musiques sacrées du monde. En 2016, vous avez publié le grand livre des musiques sacrées du monde. Et là, la méditation musicale semble être, j'allais dire, un peu la maturité de votre parcours. Est-ce que je me trompe ?
La maturité, je sais pas, mais en tous les cas, c'est une progression sur le chemin. Tout à fait, puisque le grand livre des musiques sacrées du monde, comme son nom l'indique, c'était un parcours panoramique qui recensait un petit peu toutes les grandes traditions des musiques sacrées du monde et que j'avais émaillé de réflexions personnelles et de points de vue personnels. Entre-temps, il y a d'autres choses qui ont mûri en moi et la méditation musicale est le fruit de cette maturation. Comme je le dis dans mon introduction, c'est une fleur qui est sortie de l'humus de cette longue maturation.
Est-ce que l'on peut dire que c'est une forme complètement inédite d'écoute que vous nous proposez? Et on va en parler ensemble, parce qu'il y a tout un protocole d'écoute hein, pour arriver à un but. Ce but, nous allons aussi en parler. Est-ce que l'on peut dire que c'est une forme effectivement tout à fait nouvelle d'écoute?
Je le pense. Je mentionne une forme de typologie d'écoute de la musique dans mon livre. Toute typologie se discute, hein, selon les points de vue on se place. Mais c'est vrai que cette typologie-là, je pense qu'elle est quand même assez pertinente. Il y a trois types d'écoute de la musique dans l'histoire de l'humanité, globalement. Il y a ce que j'appelle l'écoute de divertissement, où les musiques sont utilisées, intégrées dans une ambiance. Ça peut être à la maison, dans une fête, lors d'un mariage, dans un festival de musique, où on est là pour se retrouver et passer un moment de convivialité. La musique est là comme un ingrédient qui fluidifie un peu les ambiances, hein, qui rend les choses douces et belles. Ensuite, il y a ce que j'appelle l'écoute esthétique, où la musique est sélectionnée, choisie de manière volontaire et réfléchie par quelqu'un qui est un mélomane et qui va se dédier à une écoute extrêmement subtile et raffinée pour atteindre un niveau de satisfaction esthétique profond. Il y a aussi l'écoute que je qualifie de liturgique ou rituelle, où les musiques sont intégrées dans des processus religieux, dans des liturgies. Et ça remonte à l'histoire la plus ancienne de l'humanité, puisque dans toutes les traditions, y compris les traditions animistes, les instruments de musique, les chants sont présents pour accompagner les rituels. À ces trois écoutes historiques, moi je rajoute ce que j'appelle l'écoute contemplative de la musique, c'est-à-dire que là, l'auditeur se met en face de la musique et se met dans un état de contemplation intérieure profonde, comme une forme de méditation, et à partir de cet état méditatif, il fait émerger une musique qu'il a préalablement choisie, avec laquelle il va rentrer dans un rapport de contemplation. C'est-à-dire que la musique ici est considérée comme un support de méditation. Très souvent, dans notre monde moderne, dans ce qu'on appelle l'univers du développement personnel, de toute forme de yoga, New Age, voilà, tout ce qu'on peut y connaître de cet univers-là, la musique est souvent utilisée, toujours utilisée comme un ingrédient d'arrière-fond. On met de la musique pour se détendre, pour se calmer, pour être justement bien, pour faire ses postures de yoga.
Pour un mieux-être, oui.
Pour un mieux-être, globalement. Alors que j'estime le rapport que j'ai établi avec la musique, qui est quand même un fruit personnel que j'ai généré en moi-même, c'est que la musique mérite mieux que d'être quelque chose en arrière-fond, et qu'elle est aussi à même d'être un réceptacle de méditation, de contemplation, comme peut l'être un mandala, comme peut être la figure d'un Bouddha, comme peut être une icône.
Et pour vous, effectivement, cette fonction-là n'était pas assez mise en avant. Ça m'étonne, vous l'écrivez dans le livre.
Ben non, parce que, bien sûr, les choses ne sont pas figées et caricaturées et closes sur elles-mêmes. Il est clair que l'écoute esthétique, par exemple, lorsqu'un mélomane, un amoureux de Jean-Sébastien Bach, va écouter Bach, bien sûr qu'il va rentrer dans une certaine forme de contemplation de l'œuvre de Bach. Mais la posture qu'il prend en lui-même, intérieurement, n'est pas une posture de méditation. C'est une posture de raffinement esthétique. Or, la méditation, c'est un processus de recentrement intérieur. Romain Rolland, dans sa correspondance avec Freud dans les années 25-30, parle du sentiment océanique. Il dit, dans certaines circonstances, je me suis trouvé dans des états de dilatation intérieure où j'avais l'impression que mon esprit, mon âme n'avait plus de limites. Et c'est pour ça qu'il qualifie cette sensation d'océanique. Et donc, ces sentiments-là arrivent de manière fortuite. On les a tous, peut-être, j'espère, en tous les cas, vécus à des moments de notre vie. Et c'est comme ça que le mélomane qui écoute Bach, Beethoven, Mozart, John Coltrane, Ravi Shankar ou que sais-je, peut se trouver transporté parfois dans des états de cette nature. Mais ça vient fortuitement, alors qu'avec la méditation, c'est un exercice travaillé pour se mettre d'abord dans un état d'intériorité profonde et à partir de cette intériorité profonde, de rentrer dans un rapport de contemplation avec la musique.
Et effectivement, aboutir au sentiment de réalité supérieure, à des univers plus vastes, écrivez-vous, à des univers plus beaux, plus harmonieux. En fait, des continents, j'allais dire, inconnus, d'une certaine façon.
Oui, puis des continents qui sont nos continents intérieurs.
Qui sont en nous.
Qui sont en nous, c'est-à-dire que l'idée, c'est de se mettre dans l'état le plus profond, l'état intérieur le plus profond. Or, pour moi, l'état intérieur le plus profond, je l'explique dans mon livre, c'est une chose qui n'est pas si compliquée à atteindre. C'est-à-dire que il y a deux sortes de méditation. En général, la méditation avec objet, la méditation sans objet. La méditation sans objet, c'est dans le zen, par exemple. On fait le vide, on est simplement présent, et on est présent à soi et à ce qui nous entoure. La méditation avec objet, on médite sur une figure sacrée, sur une image, sur la Vierge, etc. La méditation musicale est un mélange de ces deux choses. On se met d'abord dans un état de vide mental, et là on se concentre sur le souffle, et là, à ce moment-là, lorsqu'on a fait un vide mental et qu'on est concentré sur le souffle, je dis dans une formule qu'on est des êtres de souffle. Parce que le souffle, c'est la première chose que l'on prend, que le bébé prend lorsqu'il arrive sur cette terre, et c'est l'ultime chose que l'on rend lorsque l'on quitte le parcours. Et donc quand on est réduit à cet état minimal d'un être de souffle, c'est là que la musique émerge pour qu'on puisse la contempler depuis cet état-là.
Lord d'Autriche, nous parlerons un peu plus tard au cours de notre rencontre de votre livre. Là, c'est la question à la musicienne que je vais poser. Est-ce que lorsque vous jouez, parce que finalement, Gérard Kurdjian, ce que vous décrivez, là, c'est celui qui écoute, qui se met dans une posture d'écoute. Celui qui joue, le musicien, est-ce qu'il arrive à cet état intérieur, j'allais dire, avec cette découverte de continents intérieurs qu'il ne saisit pas dans le quotidien, dans son quotidien.
Oui, je pense que oui, on se met dans des univers différents aussi en fonction des œuvres qu'on va jouer. Ça a vraiment beaucoup d'influence. Évidemment, quand on joue une pièce de Bach pour violon seul, ça n'est pas la même chose que jouer un concerto de Mendelssohn, ni dans l'écriture, ni dans la façon dont l'œuvre est construite. Donc on recherche pas forcément la même chose non plus. Mais j'allais dire, en tout cas moi, quand je prends mon violon, j'essaie de retrouver le climat que le compositeur voulait créer aussi en composant de cette manière-là. Bien sûr, il y a l'aspect technique aussi, et ce qu'on a envie de transmettre dans les phrases musicales qu'on crée. Mais effectivement, on se crée quand même une bulle, une sorte de bulle, et on essaie de créer un discours cohérent en tout cas, et qui nous plonge dans un état parfois qu'on ne maîtrise pas, auquel on ne s'attend pas d'ailleurs, forcément.
Qui vous réserve des surprises. Alors, pour préciser votre présence ici, je rappelle donc que vous avez publié tout récemment chez Talendier un livre tout à fait intéressant qui met en rapport la musique et l'histoire. Alors, on part de Jean-Baptiste Lully qui a mis en musique la monarchie absolue du roi Louis XIV, Jean-Sébastien Bach qui va se mettre dans les pas de Luther, on va en parler tout à l'heure, dans les pas de Luther, donc l'initiateur de la réforme protestante, Mozart au XVIIIe siècle qui est fasciné par les Lumières, qui va rejoindre la franc-maçonnerie, et puis on va arriver à Giuseppe Verdi au XIXe siècle qui va œuvrer pour l'unité italienne, et à Dimitri Shostakovich qui va résister à Staline. Donc vous, ça n'est pas une méditation, j'allais dire, musicale, mais c'est une méditation historique. Mais il n'empêche que dans votre livre, notamment, là je pense effectivement au chapitre sur Jean-Sébastien Bach, on voit bien cette invitation à la méditation spirituelle.
Oui, c'est vrai, et Bach s'inscrit complètement dans les pas de Martin Luther, effectivement. Dès son plus jeune âge, il découvre Luther très jeune, et il va vouloir faire en musique ce que Luther a fait avant lui, rapprocher le peuple de Dieu et mettre en musique des cantiques de Luther de la façon la plus magistrale possible. Alors, la musique de Bach dans plusieurs cantates a justement cette caractéristique d'être à la fois très, très directe, très naturelle, très accessible, cette force de toucher en plein cœur l'auditeur et en même temps d'être exceptionnellement écrite, magistralement écrite, et d'ailleurs on se lasse pas d'analyser encore et toujours ces partitions-là. Oui.
Si je peux me permettre, je peux rajouter sur cette histoire de Bach et des cantates sacrées, le sermon protestant, celui qui est dit pendant le service, se divise en trois parties. Il y a la première partie qui est le dictum, c'est-à-dire la parabole de l'évangile qui va servir de base au sermon de l'officiant. Ensuite, il y a l'explicatio, qui est en latin, qui est la partie explicative. Et pour terminer, l'applicatio, qui est la leçon morale que le pasteur transmet aux fidèles pour que pendant la semaine, ils puissent réfléchir et se conformer. Et les cantates de Bach sont, beaucoup des cantates sacrées de Bach sont construites sur ce modèle du sermon protestant. Pour dire à quel point ils restent fidèles à la théologie et à la liturgie telle qu'elle est enseignée par Luther.
Ceci m'amène à une réflexion que vous avez eue au début du livre sur la place de la musique et le partage de la musique. Aujourd'hui, la musique, elle est partout, un peu trop, semble-t-il, à vous lire. Elle est un peu invasive. Il n'empêche que la musique était simplement réservée à peu de personnes, j'allais dire au XVIe, au XVIIe siècle, et que finalement, c'était par la musique religieuse que le peuple pouvait avoir accès à la musique.
La musique a une fonction d'enseignement.
Oui.
Bach est un prédicateur en musique. Il a pour fonction, il le dit, il doit écrire une musique d'église bien ordonnée, il a pour fonction de transmettre le message divin à travers la musique. Donc la musique a cette fonction prédicatrice d'une certaine façon, mais c'est vrai que si on s'attarde un peu sur les temps passés, oui, avant la révolution technologique, la musique était quelque chose qui était exécuté une fois. Et il pouvait se passer plusieurs semaines avant qu'on puisse entendre de nouveau de la musique. Seuls les grands aristocrates, les ecclésiastiques de haut rang avaient le luxe d'avoir une chapelle et puis des orchestres. Mais pour le commun des mortels, entre guillemets, la musique était quelque chose de rare. Et là, c'est vraiment intéressant de constater comment, au XXe siècle, XXIe siècle, par la révolution technologique, la musique est devenue le média dominant. Je donne l'image d'un cosmonaute. Si on était dans l'espace avec de grandes oreilles, des grandes paraboles, on entendrait venir de la planète Terre, non pas la musique des sphères dont parlait Aristote, mais une tour de Babel musicale.
Oui.
Parce que partout, à chaque seconde, dans n'importe quel coin de la planète, il y a de la musique. Et c'est vrai que je la trouve très invasive. Pascal Quignard a écrit un livre qui s'appelle « La haine de la musique ». Je pense qu'à un moment, c'est vrai qu'on peut difficilement éviter cette
échapper.
Musique invasive.
Oui, y échapper.
Et voilà, je pense que ça a aussi un sens, parce que de manière anthropologique, si on réfléchit un peu sur la position de l'homme et la place qu'a occupée cette musique, qui a une force d'enchantement extraordinaire, et quand je dis enchantement, au double sens, à la fois de séduction et à la fois de poser un charme, comme le magicien Merlin l'Enchanteur, il y a quelque chose un peu de magique dans cette présence de la musique. Je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer, et c'est la raison pour laquelle je pose la méditation musicale comme une forme de réaction, dans le bon sens du terme, à cette manière passive qu'a une grande partie de l'humanité, d'écouter de la musique, mais de se laisser bercer. Je qualifie ce type d'écoute d'addiction.
Et cette musique, elle est systématiquement présente, par exemple, dans la vie des médias. Vous le rappelez, la fameuse pause musicale que vous, Laure, vous connaissez bien, comme oui, moi d'ailleurs, puisque vous êtes journaliste radio aussi, qui parfois d'ailleurs, la pause musicale peut avoir, n'a rien à voir à voir avec le sujet.
Rien à voir, le jingle.
Le jingle, oui.
Et pourtant, c'est grâce à ce jingle qu'on reconnaît l'émission. Donc oui, on est formaté par cette espèce de musique qui nous tamponne, qui nous fait signe d'une certaine façon, mais d'une manière, je trouve, abusive.
Laure, vous ressentez aussi, Laure d'Autriche, cette musique invasive?
Oui, c'est vrai qu'on l'a finalement dans chaque instant de notre journée, ouais, de l'ascenseur à parfois même...
À la plage,
à la
station de ski.
Pour certains. Ouais. Bon, à titre personnel, c'est encore plus compliqué dans la mesure où j'entends aussi toutes les notes, en ayant l'oreille absolue, toutes les notes qui surgissent. Et donc, chaque musique qui vient de l'extérieur est associé à une note, alors c'est parfois un peu épuisant.
Alors, revenons à notre sujet, la méditation musicale, sorte de réaction, Gérard Gurdjian, à effectivement cette musique un peu trop invasive. Donc, c'est se mettre, si j'ai bien compris, à l'écoute du soi profond. Hein, c'est bien cela. C'est réorienter l'âme vers le centre, ce qui est la définition de la méditation.
Tout à fait. Il y a un très joli livre de Eti Ilsoum, qui est une jeune juive brillante, spirituelle, intellectuelle, qui a fini sa vie philosophe, qui a fini malheureusement sa vie à Auschwitz. Elle habitait à Amsterdam. À sa mort, on a retrouvé son carnet de notes qui s'appelle « Une vie bouleversée ». Et à un moment, et ça m'a frappé, je l'ai utilisé dans mon livre, elle dit d'elle « Ce qu'il y a de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de Dieu ». Et moi, pour la méditation musicale, je dis ce qu'il y a de plus profond en moi, écoute l'essence et la profondeur de la musique. trouve que c'est aussi un respect profond par rapport à ce médium exceptionnel qu'est la musique. Parce que si on y réfléchit bien, parmi tous les arts, la musique est la forme qui a la puissance de pénétration la plus profonde et la plus instantanée. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle envahit la planète. La peinture, la sculpture n'occupent pas du tout cette même place. Donc, avec cette force de pénétration incroyable, qui d'ailleurs dans les peuples premiers, les peuples autochtones, est quelque chose de repéré. Il y a des traditions chez les aborigènes, chez les Indiens, les Amérindiens, qui disent que par le chant, ils ensemencent la terre, ils ensemencent la montagne. Donc, il y a une force d'animation au sens
vivant, animiste, du terme,
vivant,
sûr,
du terme, oui, dans la musique. Il y a un esprit vivant, une entité vivante au cœur de la musique. Et c'est justement en se mettant en rapport avec cette entité qui est au cœur de la musique que nous nous nourrissons lorsque nous faisons la contemplation musicale. Globalement, si vous voulez, on a deux esprits qui sont en relation. L'esprit vivant qui est au cœur de la musique, des musiques, quelles qu'elles soient.
Avec le mystère qu'elle recèle.
Avec le mystère qu'elle recèle, parce que la musique, encore une fois, j'y reviendrai si vous le voulez, elle porte une part extraordinaire de mystère.
Absolument.
Et puis, la position de l'être profond, qui elle aussi est une position mystérieuse, parce que l'être profond ne le connaît pas.
Donc, deux mystères l'un en face de l'autre.
Voilà.
Alors, il y a toute une méthode dans cette écoute musicale particulière, qui est la méditation musicale, Gérard Kurdjian. Il y a 5 phases. Et la première phase, qui est assez étonnante, c'est, si j'ai bien compris, d'abord il y a la posture, bien sûr, mais c'est une mise en distance avec la musique. Et c'est le silence. Tout doit commencer avec le silence.
Moi, j'ai mis 5 phases, effectivement. Bon, alors, il n'y a pas de posture dans la méditation musicale. On peut être assis sur une chaise, on peut être en tailleur, en lotus, semi-lotus. Moi, je dirige des groupes de méditation musicale. On peut méditer debout. Voilà, il y a des gens qui restent debout, qui écoutent la musique les yeux fermés, debout, et ça fonctionne très bien. Donc, une fois qu'on est dans la posture, qu'on a mis le cadre propice, comme une méditation normale, avec peut-être une baguette d'encens, un peu d'obscurité, la première phase consiste à se mettre dans l'état de présence. Rien de plus que laisser filer les pensées et être là, en silence, dans le silence, pour arriver à cet état de présence. Quand on est dans cet état de présence, à ce moment-là, la phase numéro 2, c'est le déclenchement du souffle. Pourquoi le souffle ? Parce que le souffle, la concentration sur le souffle. Je dis, d'une phrase un peu choc comme ça, « Penser au souffle, souffle les pensées ». Parce que ce qui nous dérange dans la méditation, c'est les pensées qui viennent. Or, lorsque on se concentre sur le souffle, on a un objectif. Et cet objectif nous permet d'éviter que les pensées vagabondes surviennent. Elles viennent toujours, on n'est pas des êtres parfaits, mais elles viennent d'une manière beaucoup plus relative. Une fois qu'on est dans cette posture de présence silencieuse, centrée sur le souffle, à ce moment-là, la musique apparaît. Et c'est depuis cet état d'être de souffle qu'on va contempler la musique. Pourquoi l'être de souffle ? Pour pas que la musique nous emporte. C'est la différence avec l'écoute esthétique, c'est la différence. Vous connaissez l'histoire d'Ulysse qui revient d'Ithaque sur son bateau.
Ah, c'est le mât, oui.
Voilà, c'est le mât. Et donc, il traverse le détroit de Messine et la légende dit que les sirènes, par la beauté de leur chant, désorientaient les navires qui allaient se fracasser sur les récifs. Pour ne pas que son équipage et son navire aillent se fracasser sur les récifs, Ulysse a fait couler de la cire dans les oreilles de son équipage, qui est quand même un peu dur pour des gens qui veulent écouter de la musique. Par contre, lui, il s'est fait attacher les mains au mât de son navire. Et pour moi, le souffle, c'est le mât du navire. C'est ce qui permet de rester centré. Et depuis ce centre, de rentrer en contemplation avec la musique. C'est la phase centrale de la méditation. Une fois que le morceau musical s'est terminé, ça peut être un morceau de 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, peu importe ce qu'on a choisi, à ce moment-là, on revient sur le souffle, concentration sur le souffle. Au bout de 2-3 minutes, on laisse filer le souffle et on revient, 5e phase, à l'état de présence initial.
Thank you. Gérard Kurdjian, est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup travaillé sur les musiques d'Asie notamment et sur les spiritualités asiatiques que vous vous êtes inspiré de cette question du souffle pour la méditation musicale ?
Oui, je pense, oui, parce que, si vous voulez, c'est vrai que l'idée, si vous voulez, c'est de ne pas perdre le nord, si je peux dire, pour utiliser une image. Alors évidemment, beaucoup de gens me disent, oui, mais je ne comprends pas, parce que moi, justement, quand j'écoute la musique me fait voyager, je m'envole. J'ai dit, il n'y a aucun problème, vous avez tout à fait le droit d'écouter la musique comme ça. Moi, je ne suis pas en train de faire des hiérarchies. On peut même écouter de la musique en passant son aspirateur, il n'y a aucun problème. Aucun, non, mais vraiment, aucun. Par contre, lorsqu'on décide de faire la méditation musicale, il faut suivre ce qui est prescrit d'une certaine façon, parce que il y a une saveur qui est particulière, qui n'est pas la même que celle qu'on éprouve lorsqu'on se laisse emporter par la musique. Si vous permettez, je rajoute un petit mot. Pourquoi la méditation musicale finalement ? Parce que les musiques, lorsqu'on les écoute de cette façon, elles nous enseignent. Elles nous informent au sens étymologique du terme. Elles transforment notre intérieur et quand on écoute Bach, tous les grands compositeurs, des œuvres, ce sont des œuvres parfaites. Elles sont perfection, mystère, beauté et profondeur. Et donc, lorsqu'on contemple du mystère, de la beauté, de la profondeur, on devient soi-même beau, mystérieux, profond. Il y a vraiment une
fait miroir, hein.
une dimension, oui, de miroir, si vous voulez. Et pour contempler, il faut être à distance. Vous ne pouvez pas contempler quoi que ce soit si vous avez le nez collé devant l'objet à contempler. Donc, cette distance est requise. Et dans cette distance, dans ce canal qui est un canal vivant, qui rejoint un autre mât, qui est le mât dont j'utilise la notion dans l'espace traditionnel du Japon. Vous savez, au Japon, ça vient des arts martiaux, cette notion d'espace entre deux personnes, entre deux objets, entre deux notes de musique est quelque chose de très important.
La mauvaise distance, ça fonctionne pas.
Voilà, la mauvaise distance, ça fonctionne. Les orientaux considèrent la distance qui sépare les êtres comme quelque chose de vivant, de souple, de dynamique, alors que beaucoup en Occident considèrent qu'il y a un sujet qui regarde et un objet qui est regardé et entre, il y a quelque chose qui est relativement vide. Donc, ce mât du Japon, c'était ce bon espace vivant dans lequel une vraie relation peut s'établir entre deux êtres, une musique et un être, un paysage et un être. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, bizarrement, recoupe le mât d'Ulysse. Ça permet à la méditation de fonctionner dans une forme de stéréophonie.
Est-ce que cela vous parle, Lord Autriche, cette méditation spirituelle, vous qui jouez et qui écoutait, mais qui jouait d'abord.
Oui, alors, enfin, ce que vous disiez me fait penser à une chose, c'est aussi les différents niveaux de lecture, ou plutôt les différents niveaux d'écoute de la musique. C'est-à-dire que quand on est très connaisseur, on peut y trouver son compte aussi en écoutant Bach ou un autre. Et quand on ne connaît pas du tout la musique, on va aussi avoir une sensibilité. Et on parlait de Bach tout à l'heure, c'est exactement ce que Bach cherchait, c'est-à-dire qu'il a écrit une musique extrêmement complexe. Mais ce qu'il cherchait à son époque, c'était toucher le plus petit paroissien de son église. Et c'est ça qu'il cherchait. Il se fichait complètement que la complexité de sa musique soit reconnue. Ce qu'il voulait, c'était toucher en plein cœur. Et c'est aussi ça qui fait, je trouve, la force particulièrement de la musique de Bach.
Tout à fait. Il y a dégager de l'émotion. Alors là, pour le cas de Bach, au service de Dieu. Et dans le cas de la méditation, cette émotion se dégage. Bien sûr, il n'est pas question de rejeter l'émotion. Par contre, cette émotion, on la réinvestit par la méditation dans le centre.
Alors, Gérard Kurdjian, quelle musique maintenant ? C'est la question, effectivement. À la fin de votre livre, il y a toute une liste. Il y a bien sûr, évidemment, Jean-Sébastien Bach, mais aussi Mozart et le concerto pour clarinette que l'on écoutera. Mais il y a aussi les polyphonies corses, John Coltrane aussi, et puis Gabriel Fauré, etc., les musiques indiennes. Bon, et puis aussi à la fin, la musique, le doudouk d'Arménie. Alors, est-ce qu'il y a une hiérarchie? Je suis sûre que vous allez me dire non, mais il y a quand même, entre Jean-Sébastien Bach et le doudouk d'Arménie, on peut quand même supposer qu'il y a malgré tout une forme de hiérarchie, non? Je vous choque, je suis sûre.
Je dirais pas que je suis pas choquable. Non, il n'y a pas de hiérarchie du tout. Alors, ça, c'est personnel. Moi, je travaille depuis 30 ans, 35 ans. Je suis musicien, j'ai travaillé beaucoup dans le jazz, je suis percussionniste, j'ai des productions musicales que je crée où je rassemble des textes mystiques avec des musiques baroques, des musiques persanes, etc. Donc, c'est vrai que ma vie personnelle, j'ai la chance d'être ouvert à beaucoup de musique. Beaucoup, beaucoup de musique. Et je me rends compte, dans les méditations que je dirige, des fois, des gens me disent « Je suis désolé, je n'ai pas accroché à cette musique. Le chant grégorien m'a barbé au bout de 3 minutes, j'en avais assez, je pouvais pas méditer. » Alors, c'est vrai, la méditation musicale, je prends l'image, c'est comme une randonnée. Lorsque vous décidez de vous partir en balade à la montagne, vous allez dans des endroits qui vous plaisent. Vous n'allez pas dans des endroits que vous ne supportez pas. La méditation musicale, c'est pareil. Il faut choisir des musiques qui nous plaisent. Alors, certains peuvent aimer Bach, certains peuvent aimer Gabriel Fauré, certains peuvent aimer Arvo Pärt, certains peuvent aimer les polyphonies corses, le doudouk d'Arménie. Pour moi, je ne fais pas de hiérarchie entre ces musiques. Simplement, il faut les choisir. Et c'est vrai que le choix des musiques est très très important. Très très important. C'est fonction de la vie personnelle de chacun, de la culture, mais pas la culture au sens abstrait, la culture telle qu'il a été formée par les musiques qu'il a écoutées. Et puis aussi, c'est vrai aussi que c'est moins facile de méditer sur la 9e symphonie avec les masses orchestrales. Même si je prends des musiques du monde contemporain, Fauré,
Arvo Pärt,
par exemple, ce sont des musiques que je choisis parce qu'elles ont une forme d'intériorité qui facilite la méditation.
Oui, c'est ça, parce que l'or d'Autriche, donc ces musiciens qui ont fait l'histoire, votre livre, hein, publié chez Talendier, tous ces musiciens sont engagés, hein, ils sont engagés politiquement, donc on peut supposer que leur musique prête moins à la méditation que, bon, à l'action même politique.
Oui, c'est vrai. La plupart des œuvres dont je parle dans ce livre sont liées à une histoire et sont créées dans un but bien précis. Le compositeur de la Révolution française, François-Joseph Gossec, qui n'est plus très joué aujourd'hui, écrit toutes les musiques, par exemple, qui vont accompagner les grandes fêtes révolutionnaires en 1789 et dans les années qui vont suivre. Bien sûr que sa musique est complètement créée dans un but très particulier, attirer les foules, correspondre à une musique du plein air.
Émotion populaire, en fait.
Émotion populaire, voilà. Ouais. Mais toutefois, effectivement, l'aspect de la méditation n'est pas abordé par la plupart des compositeurs, mais j'allais dire, il y a quand même des passages, vous parliez de la 9e symphonie de Beethoven, peut-être que ça ne se prête pas forcément à la méditation, mais ça, on change d'univers quand même totalement quand on voit que Beethoven, dans le dernier mouvement de cette symphonie, intègre des chœurs qui viennent se joindre à l'orchestre, et que c'est la première fois que dans un orchestre on a cette configuration-là. Incontestablement, il faut imaginer la réaction du public à l'époque. Avoir des chœurs comme ça qui se joignent à l'orchestre, c'est un paradis qui s'ouvre, c'est un univers totalement nouveau, et c'est ce que voulait Beethoven à l'époque. C'était sa foi en lui-même qui se manifeste dans cette 9e symphonie aussi.
C'est vrai qu'idéalement, toute musique peut se prêter à la méditation. Mais tout dépend de l'état intérieur.
C'est ressenti.
Tout dépend de l'état intérieur. C'est vrai que si on est à un état spirituel extrêmement élevé, peut-être même qu'on pourrait méditer avec du heavy metal. Qui sait ? Voilà. Mais disons que pour nous autres simples humains, il vaut mieux choisir des choses qui facilitent notre état intérieur de tranquillité et de paix.
Vous avez choisi à la fin de votre livre, Gérard Kurdjian, donc votre livre Méditation musicale, publié chez Dervy, Parmi les morceaux que vous avez sélectionnés, se prêtant à la méditation, il y a le concerto pour clarinette. Vous en parlez dans votre livre aussi.
Oui, le concerto pour clarinette de Mozart.
De Mozart, voilà, c'est ça. Ouais.
Que Mozart écrit alors qu'il a rejoint la franc-maçonnerie et il rencontre au milieu des francs-maçons son temps, Anton Stadler, et c'est pour lui que Mozart écrit ce concerto pour clarinette, fameux, mais aussi son quintette pour clarinette. Ils s'entendent tellement bien que...
Comme l'arbre en foire, on peut dire. Hein.
Voilà, exactement. Quand ils ne jouent pas au billard ensemble, ils expérimentent d'autres tentatives qu'elles sont. Mozart, qui ne s'intéressait pas particulièrement à cet instrument, va effectivement mettre un coup de projecteur sur cet instrument-là, sur une période bien précise de sa vie, et ça donne comme effectivement voilà. Ce concerto pour clarinette.
Et c'est, oui. C'est l'adagio qui sert de base pour la méditation, ce n'est pas le concerto dans son entier.
Il y a des écritures musicales particulières qui prêtent à la méditation. Le contrepoint, par exemple, chez Jean-Sébastien Bach, est-ce que c'est pas le génie de Bach qui amène à cette méditation? Et d'ailleurs, qui a dit que si Dieu devait effectivement remercier un compositeur, c'était vraiment Jean-Sébastien
c'est
Bach.
C'est Sioran, je crois. Hein.
Ah oui, peut-être. C'est Sioran, oui. En tous les cas, c'est une très belle phrase. C'est une très belle phrase.
Dieu doit tout à Bach, dit
ouais,
Sioran.
Ouais, il a mille fois raison. C'est vrai. Et surtout que l'art de la fugue, par exemple, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans les sessions de méditation, est réputé comme une œuvre abstraite. Alors qu'en réalité, c'est une épure. Et la méditation a quelque chose d'épuré dans son rapport à la musique. On dit d'ailleurs que c'est sa dernière œuvre, hein, c'est son testament d'une certaine façon. Et il y a un très très beau livre que j'ai lu récemment d'une claveciniste et musicologue, Martha Cook, qui a écrit un livre sur l'art de la fugue, une méditation musicale. Et je l'ai lu il y a 3 semaines après que j'ai écrit mon livre, et j'ai trouvé qu'on était vraiment en correspondance parfaite, parce que la manière dont Bach justement traite l'art du contrepoint, comment il s'abstrait de tout ce que les cantates avaient, je dirais, de sentimentalisme quelque part encore, induit qu'il est arrivé à une sorte de sérénité, de pureté, pas abstraite. Moi, je récuse le terme abstrait. L'art de la fugue n'est pas une abstraction. C'est quelque chose qui est arrivé à la simplicité minimale absolue.
Mais c'est vrai que chez Bach, tout jaillit avec une espèce d'évidence. C'est ça aussi qui est vraiment très frappant. La musique est extrêmement complexe, mais elle semble tout à fait naturelle. Une voix va s'élever, puis une autre qui va prendre le relais. Quand on analyse mesure par mesure, c'est merveilleux, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'absolument naturel qui est tout à fait déconcertant, je trouve.
C'est absolument pas abstrait.
C'est ça. Est-ce que c'est là, justement, le mystère, hein, le mystère de la musique, hein. Gérard Kurdjian, c'est mystère de la musique, qui amène alors à un autre mystère, celui de la création. C'est quand même très présent dans votre réflexion et dans notre réflexion à
oui,
tous.
Oui, parce que...
La musique est un mystère.
La musique est un mystère. D'abord par sa propre nature, parce qu'on dit souvent la musique est un langage.
Pourquoi la musique?
Parce que la musique n'est pas un langage. La musique est incapable de décrire quoi que ce soit. Avec une peinture, une sculpture,
oui,
une poésie, un roman, vous décrivez un paysage. La musique ne peut rien décrire. Il n'y a aucun vocabulaire musical. Il n'y a pas de dictionnaire qui dirait que telle note, tel accord, tel mode signifierait ça de manière extrêmement sérieuse. En sémantique, on parle du signifiant et du signifié. Et donc, dans la musique, les notes de musique ne signifient pas quelque chose de précis. Il y a un rapport extrêmement vaste, ce qui fait qu'elle est parfaitement à même d'exprimer l'inexprimable. Et d'où ce rapport direct au mystère, sans compter le rapport qu'elle a avec le temps et avec l'instant. C'est un flux qui fuit, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas arrêter. Donc il y a une espèce de quelque chose d'irrépressible, de libre, de fondamentalement libre. Et je dis globalement qu'on est toujours sur les traces de la musique. C'est comme, si vous voulez, un animal qu'on essaye de piéger par... comme un trappeur qui essaierait de piéger un animal. Mais lorsqu'on arrive, le piège s'est ouvert et la musique est partie. Elle n'est plus là. Par contre, on est sur ses traces. Et donc, il y a effectivement quelque chose d'extrêmement à la fois touchant et mystérieux dans ce rapport à quelque chose qui fuit, qui est en rapport avec le temps, avec l'instant.
À aucun moment, vous ne parlez de Dieu dans votre livre, Gérard Kurdjian. C'est toujours la musique, c'est toujours, le mystère. C'est assez abstrait, en fait, cette façon dont vous voulez parler de Dieu, ou vous ne voulez pas parler de Dieu, d'ailleurs, peut-être.
C'est-à-dire, je ne parle pas de Dieu nommément, parce que je pense que Dieu n'est pas nommable. Dieu, c'est... D'ailleurs, dans la tradition juive, Dieu, on l'appelle l'éternel.
Absolument.
Et l'éternel, c'est le présent, en réalité. Et donc, c'est sous cette forme-là qu'on l'évoque. On l'évoque. Et donc, moi, je trouve que lorsque je parle de l'être profond, du soi profond, lorsque je parle de l'esprit qui nous habite et qui habite la musique, je fais référence à des choses qui ont une réalité spirituelle. C'est vrai que la musique, la méditation musicale ne se réfère pas à une divinité. Et la musique elle-même ne se réfère pas à une divinité. Elle évoque un infini qui, selon moi, est un infini différent. Elle a un rapport avec l'infini, mais ce n'est pas le même infini que le sacré religieux, qu'une divinité qui serait une divinité religieuse. C'est une infinité que moi, je rapporte plutôt... Vous savez, chez les Grecs présocratiques, les philosophes grecs présocratiques, ils parlent de la physis, la grande nature infinie. Celle qui produit sans cesse, qui engendre, qui crée la vie, sans arrêt, en permanence. C'est cet infini-là qui est évoqué pour moi à travers la musique.
Votre connaissance de l'Asie, votre intérêt pour l'Asie, pour les spiritualités asiatiques, ont joué dans l'écriture de ce livre et dans votre conception de la méditation musicale, Gérard Kurdjian.
Je pense, parce que c'est un parcours intérieur. Et alors, bien sûr, il y a ce rapport aux spiritualités du monde qui m'ont toujours intéressé, que j'utilise d'ailleurs dans mes créations musicales. Mais c'est vrai aussi que, d'une certaine façon, ces milliers d'heures d'écoute de musique sacrée, et de musique tout court d'ailleurs, que je pratique depuis des années, finalement, c'est ça, mon humus, c'est ça qui m'a formé d'une certaine façon, plus que, je dirais, les spiritualités en tant que telles. Dans les années 80, je suis allé étudier les percussions indiennes en Inde, à Benares, et je me suis jamais rapproché des ashrams où des Européens allaient se suivre, des gourous, etc. Par contre, j'étais très très proche des musiciens. Et je pense que par cette nourriture-là, j'ai touché autre chose, mais qui ne vaut pas moins que ce que les autres ont touché dans les ashrams.
Dans les diverses musiques, il y en a une qui ne trouve pas sa place dans votre livre, c'est la musique soufie. Vous préférez parler de poésie soufie. Pourquoi ?
Non, mais c'est un hasard, parce que... Oui. Disons que moi, la musique soufie, je considère que ça n'existe pas. Il n'y a pas de musique soufie. Il y a de la musique et des textes soufis. Il y a la voie spirituelle du soufisme, qui est une pratique particulière, dans laquelle des chants sont utilisés, mais une musique soufie en tant que telle, je n'en connais pas. Par contre, je connais d'excellents, de très très beaux poèmes mystiques qui ont été mis en musique dans les modes classiques de la musique persane, dans les modes classiques de la musique arabe. Et donc voilà, c'est pour ça que la musique soufie en tant que telle, c'est une notion que je ne valide pas. Maintenant, le fait qu'elle n'y soit pas, disons que j'ai fait ça un peu à la fin. Là, par exemple, dans des méditations que je fais, j'utilise des chants de Dafer Youssef, qui est un grand oudiste tunisien, qui chante des chants de Halaj, qui est un grand mystique irakien qui fut crucifié à Bagdad au IXe siècle. Et donc, il utilise le texte, des très très beaux textes de Halaj, qu'il chante dans un contexte, je dirais, de jazz méditatif. Donc, ça a tout à fait sa place.
Pour conclure, Gérard Kurdjian, est-ce que l'on peut dire qu'il y a une forme de mystique dans cette méditation musicale que vous proposez ?
Oui, je pense qu'il y a une forme de mystique, si la mystique, c'est creuser pour toucher des zones de l'être, de la réalité, qui sont sous-jacentes, qui sont moins visibles et qui pourtant nourrissent de manière subtile notre existence. Il y a une dimension mystique dans la musique, dans toutes les musiques, et par contre, si on n'y accorde pas à la musique l'attention qu'elle mérite, on passe à côté de cette dimension mystique. Et donc, la méditation musicale induit, provoque, crée un rapport mystique à la musique, et à travers elle, à travers toute forme. Parce que si vous voulez, globalement, qu'est-ce qui se passe dans la méditation musicale? On a une forme de spiritualisation de la musique, par le jeu de la contemplation, et en retour, la musique musicalise notre esprit. Donc, il y a une forme d'échange comme ça, qui circule de manière... circulaire, j'allais dire, mais il y a cet échange entre la spiritualité et la mystique qui sont au cœur de la musique. Et c'est vrai que à travers ce rapport à la musique, il y a une intériorité nouvelle qui se crée. Globalement, si vous voulez, c'est pas quelque chose d'ailleurs qui se substitue à toute autre pratique, mais on peut décider que grâce à la musique, il y a une information spirituelle très particulière à laquelle on peut goûter.
Et alors que nos contemporains sont souvent effectivement assez réticents par rapport à tout ce qui est dogme, etc.
Il n'y a aucun dogme.
Là, effectivement, on a le sentiment que ce que vous proposez, de ce point de vue-là, est assez libérateur, si je puis dire.
Tout à fait, et ça correspond bien, à mon avis, à notre temps. Parce que notre temps vit sur les débris des divinités du passé. Toutes les divinités, en tous les cas, en Occident, parce qu'il y a des religions dans lesquelles les divinités sont bien présentes, quelquefois même malheureusement. Mais il y a effectivement, sur les débris de ces divinités, les musiciens d'aujourd'hui se saisissent des bribes des spiritualités, du bouddhisme, de l'hindouisme, de l'islam, des bribes de des musiques du passé pour construire des nouvelles formes spirituelles à travers la musique. Et la méditation musicale permet de répondre à ça aussi. C'est une manière de spiritualiser les musiques en dehors du cadre religieux. Et ça correspond bien, je trouve, à la quête de sens que notre société recherche d'une certaine manière.
Est-ce que c'est un message? Ça sera ma dernière question, Gérard Kurdjian, à tous ceux qui écoutent la musique comme un divertissement. C'est en quelque sorte les appeler à aller beaucoup plus loin.
Tout à fait, c'est une manière de porter la musique à un niveau beaucoup plus élevé. Encore une fois, je répète, la musique de divertissement, je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre rien, globalement, si vous voulez. Par contre, à certains moments, nous avons besoin de nous nourrir très profondément, et je trouve qu'avec la méditation musicale, cette nourriture que nous apporte la musique est portée à son degré profond.
Je vous remercie, Gérard Kurdjian. Je rappelle donc le titre de votre livre, Méditation musicale, comment méditer avec les plus belles musiques du monde, et c'est publié chez Dervy. Merci, Laure d'Autriche, d'avoir été avec nous dans ce studio. Votre livre, c'est Musiciens qui ont fait l'histoire, et c'est publié chez Talendier.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est la fin de Religion du Monde, présentée par Geneviève Delru et réalisée par Sandrine Straram. Et vous pouvez retrouver les références des extraits musicaux que vous avez entendus tout au long de cette émission sur la page Facebook de Religion du Monde. À dimanche prochain, bonne semaine à tous.
Proprio per la scuola Maria lo rebenodawa mare. Carrefour de l'eau.